Au commencement était le sein. Un bébé qui ne peut plus être allaité ni par sa mère, ni par une nourrice, est une situation qui a dû se produire bien des fois dans l'histoire de l'humanité. Avant que l'homme ait inventé le biberon, en tant qu'objet qui imite le sein maternel, on avait recours à divers ustensiles et à des réutilisations d'objets d'usage domestique, pots, cuillères, etc. Or, la forme du biberon va influencer la façon de nourrir le bébé. Il peut boire, téter ou sucer le lait. Selon le mode choisi, sa digestion sera plus ou moins facile et la situation sera plus ou moins proche de l'allaitement au sein, tenant compte d'un élément essentiel, le réflexe naturel de succion du nourrisson. C'est au Moyen-Âge qu'apparaît le premier biberon sous la forme d'une corne de vache percée, recouverte d'un pis de vache ou d'un tissu enroulé appelé cornet. Les premiers biberons, fabriqués, apparaissent au XVIe et au XVIIe siècle et sont réservés aux couches aisées de la société. Ce sont des adaptations en argent ou en verre de ce biberon primitif ou bien des ustensiles en bois ou en étain. Au XVIIIe et XIXe siècle, tout un tas de modèles de biberons voient le jour. Toutes ces inventions s'inquiètent de reproduire un système qui oblige l'enfant à exercer une succion. Il va donc y avoir des biberons en étain, en fer blanc, en faïence. C'est le biberon breton, dit pot de Bronec, puis en verre soufflé. Le verre est une révolution, car il se nettoie facilement, ne rouille pas et limite les risques, à l'époque mortels, d'infections gastro-intestinales. Les premiers ont des formes de simples bouteilles et, en guise de tétine, une éponge ou un tissu enroulé. Puis viennent le biberon limande, le biberon sabot, le thermobiberon ou le biberon stérilisateur, qui sont autant de formes différentes avant l'apparition moderne du biberon en pyrex. Les biberons ont un nom, même plusieurs. Avec la révolution industrielle au milieu du 19e, le biberon passe d'un produit artisanal et anonyme à un produit fabriqué en série et à grande échelle. Il a désormais un nom, celui de son inventeur, médecin, sage-femme ou industriel. On ne donne plus le biberon, mais le biberon de Madame Breton, Darbeau, Thiers, Mathieu, etc. Le plus célèbre inventeur fabricant de l'époque, qui va régner pendant 50 ans, est Édouard Robert. Sa notoriété pour son biberon à long tuyau, un flacon en verre équipé d'un bouchon percé dans lequel passe un long tuyau en caoutchouc raccordé à une tétine, a laissé une trace dans la langue française, puisque certains nomment encore les seins les Robert. Ce biberon permettait au bébé de téter seul, d'où son succès extraordinaire. Toutefois, le nettoyage du tuyau en caoutchouc étant difficile, il constituait un véritable nid à microbes. Renommé le biberon meurtrier, il sera interdit par une loi votée en 1910. On passe alors au biberon nourricier qui prend la forme d'un sabot posé à plat. De nombreux modèles et marques se partagent alors un marché de l'allaitement artificiel florissant. Le stérilisateur. Au début du XXe siècle, les biberons sont alors tous à tétine, mais la forme droite reste encore peu répandue. La marque Lolo, une des plus connues, vend un modèle en verre de forme droite. C'est dans les hôpitaux que des médecins, soucieux d'apporter des réponses à la mortalité infantile, vont faire des essais de mise au point de nouveaux modèles, plus hygiéniques et d'amélioration de la qualité du lait. La pasteurisation ou la stérilisation par la chaleur, appliquée dès 1888, permet de détruire tous les germes. C'est à partir de cette date que le taux de mortalité infantile commence à chuter de manière significative. Le biberon se lit, se décore et se visse. La sérigraphie va permettre à nouveau de différencier les biberons, dont la forme se standardise de plus en plus. Les inscriptions, en couleur, vont d'abord être des modes d'emploi, avec l'inscription des dosages pour les laits concentrés, puis uniquement une graduation en millilitres pour les laits en poudre, auxquels vont s'ajouter des éléments décoratifs. Les marques ont changé et sont maintenant celles liées à l'industrie agroalimentaire et plus particulièrement laitière. Nestlé, Montblanc, Gallia Gervais et d'autres commercialiseront des biberons en verre fin de plusieurs tailles. Puis, Nestlé s'orientera vers la forme cylindrique que l'on connaît toujours et utilisera le verre Pyrex résistant aux températures de stérilisation. Au début des années 50, le modèle le Bib 49 innove avec son système de bagues vissées. Le flacon est toujours en verre et cylindrique, mais avec un pas de vis sur lequel vient se fixer une bague qui maintient la tétine. Le biberon n'a pas encore de bouchon et la bague, au départ en bakélite, sera remplacée rapidement par du plastique. Les marques Montblanc et Raymond vont être les premières à utiliser ce procédé. Le biberon réconfortant, le biberon du soir. Il y a une chose fortement déconseillée par les pédiatres et la littérature concernant le développement de l'enfant, c'est de donner à votre bébé, le soir, dans son lit, un biberon de lait. Oui, un biberon. Comment ? Vous ne l'avez jamais fait ? Mais quand il hurle et manque de s'étouffer pour l'avoir, et que vous êtes si fatiguée par votre plein temps de maman, vous savez parfaitement que le jus de fruits ou le lait va faire d'horribles petits trous appelés caries dans les dents de votre enfant pendant la nuit, et vous ne voulez pas mettre en danger sa santé dentaire uniquement pour l'entendre dormir. Aussi, respectez la règle. Seulement de l'eau dans ses biberons, et pas avec du jus de fruits parce qu'il n'aime pas le goût de l'eau. Il va certainement jeter au loin ce biberon d'eau, mais aussi vite découvrir que l'alternative, pas de biberon, est bien pire. Gardez ce biberon réconfortant et apaisant. Vous le supprimerez en mettant de moins en moins d'eau.